à Louise Collet, Croisset, nuit de mardi, 1h, 14 juin 1853. Tu parles de grotesque. J'en ai été accablé à l'enterrement de Madame Pouchet. Décidément, le bon Dieu est romantique. Il mêle continuellement les deux genres. Pendant que je regardais ce pauvre Pouchet qui se tordait debout comme un roseau au vent, sais-tu ce que j'avais à côté de moi? Un monsieur qui m'interrogeait sur mon voyage. Y a-t-il des musées en Égypte? Quel est l'état des bibliothèques publiques? Textuel. Et comme je démolissais ces illusions, il était désolé. Ô humain, ô mortel, et dire qu'on est toujours dupe, qu'on a beau se croire inventif, que la réalité vous écrase toujours. J'allais à cette cérémonie avec l'intention de m'y guinder l'esprit à faire des finesses, à tâcher de découvrir de petits graviers. Et ce sont des blocs qui me sont tombés sur la tête. Le grotesque m'assourdissait les oreilles et le pathétique se convulsionnait devant mes yeux. D'où je tire, ou retire plutôt, cette conclusion. Il ne faut jamais craindre d'être exagéré. Tous les grands l'ont été, Michel-Ange, Rabelais, Shakespeare, Molière. Il s'agit de faire prendre un lavement à un homme dans Pourceaugnac. On n'apporte pas une seringue. Non, on emplit le théâtre de seringues et d'apothicaires. Cela est tout bonnement le génie dans son vrai centre, qui est les normes. Mais pour que l'exagération ne paraisse pas, il faut qu'elle soit partout continue, proportionnée, harmonique à elle-même. Si vos bons hommes ont 100 pieds, il faut que les montagnes en aient 20 000. Et qu'est-ce donc que l'idéal, si ce n'est ce grossissement-là? À Louise Collet, Croisset, lundi, minuit, 20 juin 1853. Oh, les délicieuses revues de la semaine de monsieur Eugène Guinaud! Voilà un gaillard qui a 6 000 francs d'appointement par an pour parler au bout de la semaine de tout ce qu'on a lu dans le courant de la semaine. De temps en temps, je m'en repasse la fantaisie. Je lui ai découvert ce matin, en parlant de la Suisse, des phrases textuelles, à peu de choses près, de mon monsieur et de madame parlant de la Suisse, dans Bovary. Oh, bêtise humaine! Te connais-je donc? Il y a en effet si longtemps que je te contemple. À Louis Bouillet, Croisset, mercredi, nuit, 1h, 22 juin 1853. J'ai fait, ou à peu près, mon trio d'imbéciles. Il m'est impossible de l'écrire court. Il me ronge. N'oublie pas de m'apporter les renseignements suivants. 1. Si c'est, nous en donnerons de ferrugineux. Si au contraire nous avons affaire à... on pourrait en essayer d'oléagineux. Deuxièmement, comment appelle-t-on médicalement le cauchemar? Il me faut un bon nom grec à toute force. Troisièmement, ma phrase de Lachaud. Car si Lachaud, par malheur, eût été vive, il eût, à cause de, perdu les deux pieds infailliblement. J'ai lu avant-hier L'Oiseau bleu, comme c'est joli. Quel dommage qu'on ne puisse pas empoigner tout cela. Ce serait plus amusant à écrire que des discours du pharmacien. Les fétidités bourgeoises, où je patauge, m'assombrissent. À force de peindre les cheminots, j'en deviens un moi-même. J'âpre difficulté de style. Mauvais temps. À Louise Collet, Croisset, nuit de samedi, 1h, 25 juin 1853. Enfin, je viens de finir ma première partie de la seconde. J'en suis au point que je m'étais fixé pour notre dernière entrevue à Mantes. Tu vois quel retard! Je passerai la semaine encore à relire tout cela et à le recopier. Et de demain en 8, je dégueulerai tout au sieur Bouillet. Si ça marche, ce sera une grande inquiétude de moins, et une bonne chose, j'en réponds, car le fond n'était bien ténu. Mais je pense pourtant que ce livre aura un grand défaut, à savoir le défaut de proportion matérielle. J'ai 260 pages et qui ne contiennent que des préparations d'action, des expositions plus ou moins déguisées de caractère. Il est vrai qu'elles sont graduées, de paysages, de lieux. Ma conclusion, qui sera le récit de la mort de ma petite femme, son enterrement et les tristesses du mari qui suivent, aura 60 pages au moins. Reste donc, pour le corps même de l'action, 120 à 160 pages, tout au plus. N'est-ce pas une grande défectuosité? Ce qui me rassure, médiocrement cependant, c'est que ce livre est une biographie plutôt qu'une péripétie développée. Le drame y a peu de part, et si cet élément dramatique est bien noyé dans le ton général du livre, peut-être ne s'apercevra-t-on pas de ce manque d'harmonie entre les différentes phases quant à leur développement. Et puis, il me semble que la vie en elle-même est un peu ça. Un coup dure une minute et a été souhaité pendant des mois. Nos passions sont comme les volcans. Elles grondent toujours, mais l'éruption n'est qu'intermittente. Malheureusement, l'esprit français a une telle rage d'amusement. Il lui faut si bien des choses voyantes. Il se plaît si peu à ce qui est pour moi la poésie même, à savoir l'exposition, soit qu'on la fasse pittoresquement par le tableau ou moralement par l'analyse psychologique, qu'il se pourrait fort bien que je sois dans la blouse ou que j'ai l'air d'y être. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je souffre d'écrire en ce langage et d'y penser. Au fond, je suis allemand. C'est à force d'études que je me suis décrassé de toutes mes brumes septentrionales. Je voudrais faire des livres où il n'y eut qu'à écrire des phrases, si l'on peut dire cela. Comme pour vivre, il n'y a qu'à respirer de l'air. Ce qui m'embête, ce sont les malices de plans, les combinaisons d'effets, tous les calculs du dessous, et qui sont de l'art pourtant. Car l'effet du style en dépend, et exclusivement. Si le livre que j'écris avec tant de mal arrive à bien, j'aurai établi par le fait seul de son exécution ces deux vérités, qui sont pour moi des axiomes, à savoir, d'abord que la poésie est purement subjective, qu'il n'y a pas en littérature de beaux sujets d'art, et qu'Yvetot donc vaut Constantinople, et qu'en conséquence l'on peut écrire n'importe quoi aussi bien que quoi que ce soit. L'artiste doit tout élever. Il est comme une pompe. Il a en lui un grand tuyau qui descend aux entrailles des choses, dans les couches profondes. Il aspire et fait jaillir au soleil en gerbes géantes ce qui était plat sous terre et qu'on ne voyait pas. À Louise Collet, Croisset, mardi, 1h de nuit, 28 juin 1853. Je suis accablé. La cervelle me danse dans le crâne. Je viens, depuis hier 10h du soir jusqu'à maintenant, de recopier 77 pages de suite qui n'en font plus que 53. C'est abrutissant. J'ai mon rameau de vertèbre au haut cou brisé d'avoir eu la tête penchée longtemps. Que de répétitions de mots je viens de surprendre. Que de tout, de mais, de car, de cependant. Voilà ce que la prose a de diabolique, c'est qu'elle n'est jamais finie. J'ai pourtant de bonnes pages, et je crois que l'ensemble roule, mais je doute que je sois prêt pour dimanche à lire tout cela à bouillir. Ainsi, depuis la fin de février, j'ai écrit 53 pages. Quel charmant métier! Quelle crème fouettée à battre qui vaut des marbres à rouler! Mon Dieu, que j'ai mal à la tête! Il faut que je me couche. J'ai le pouce creusé par ma plume et le cou tordu. À Louise Collet, Croisset, samedi minuit, 2 juillet 1853. Enfin, une lettre du grand crocodile. Mais j'ai 1000 choses à te dire et je vais les énumérer de suite pour me les rappeler. Premièrement, lui, le suprême alligator, qui est là-bas dans ses ondes amères. Puis la revue de Paris où il n'y a rien, Dieu merci. Ma Bovary, et enfin toi, cher ami, que je réserve pour la fin comme étant le meilleur sujet à s'étendre. Passe-moi le calembour. Il me tarde bien de voir ta servante. Tu me dis que tu dois aller à la salpêtrière pour cela. Prends garde que cette visite n'influe trop. Ce n'est pas une bonne méthode que de voir ainsi tout de suite pour écrire immédiatement après. On se préoccupe trop des détails, de la couleur, et pas assez de son esprit. Car la couleur dans la nature a un esprit, une sorte de vapeur subtile qui se dégage d'elle. Et c'est cela qui doit animer en dessous le style. Que de fois, préoccupé ainsi de ce que j'avais sous les yeux, ne me suis-je pas dépêché de l'intercaler de suite dans une œuvre et de m'apercevoir enfin qu'il fallait l'ôter. La couleur, comme les aliments, doit être digérée et mêlée au sang des pensées. Demain, je lis à bouillir 114 pages de la Bovary, depuis 139 jusqu'à 251. Voilà ce que j'ai fait depuis le mois de septembre dernier, en 10 mois. J'ai fini cet après-midi par laisser là les corrections, je n'y comprenais plus rien. À force de s'appesantir sur un travail, il vous éblouit. Ce qui semble être une faute maintenant, 5 minutes après, ne le semble plus. C'est une série de corrections et de recorrections des corrections n'en ont plus finir. On en arrive à battre la breloque, et c'est là le moment où il est sain de s'arrêter. Toute la semaine a été donc assez ennuyeuse, et aujourd'hui, j'éprouve un grand soulagement en songeant que voilà quelque chose de fini ou approchant. Mais j'ai eu bien du ciment enlevé qui bavachait entre les pierres, et il a fallu retasser les pierres pour que les joints ne parussent pas. La prose doit se tenir droite d'un bout à l'autre, comme un mur portant son ornementation jusque dans ses fondements, et que, dans la perspective, ça fasse une grande ligne unie. Oh, si j'écrivais comme je sais qu'il faut écrire, que j'écrirais bien. Il me semble pourtant que dans ces 114 pages, il y en a beaucoup de roides, et que l'ensemble, quoique non dramatique, a l'allure vive. J'ai aussi rêvassé à la suite. J'ai une baisade qui m'inquiète fort et qu'il ne faudra pas biaiser, quoique je veuille la faire chaste, c'est-à-dire littéraire, sans détail leste ni image licencieuse. Il faudra que le luxurieux soit dans l'émotion. À cause de toi, Paris, comme à 18 ans, me semble un lieu enviable. Comme mon jeune homme de mon roman, je me meuble dans ma tête mon appartement. Je n'y rêve pas comme lui une guitare accrochée au mur, mais à sa manière et d'une façon plus nette, j'y entrevois une figure souriante qui se penche sur mon épaule. Patience, pauvre chérie, ce n'est plus maintenant qu'une question de mois et non d'années. C'est encore un hiver à passer, deux ou trois rendez-vous à Mantes, quelques pages à écrire. À Louise Collet, Croisset, nuit de jeudi, 1h, 7 juillet 1853. Je ne sais si Bouillet a écrit. Il a dû te dire qu'il était content de ce que je lui avais lu. Et moi aussi, franchement. Comme difficulté vaincue, ça me paraît fort. Mais c'est tout. Le sujet par lui-même, jusqu'à présent du moins, exclut ces grands éclats de style qui me ravissent chez les autres et auxquels je me crois propre. Le bon de la Bovary, c'est que ça aura été une rude gymnastique. J'aurai fait du réel écrit, ce qui est rare. Mais je prendrai ma revanche. Que je trouve un sujet dans ma voix et j'irai loin. Qu'est-ce donc les contes d'enfants dont tu parles? Est-ce que tu vas écrire des contes de fées? Voilà encore une de mes ambitions, écrire un conte de fées. À Louise Collet, Croisset, mardi, 1h, 12 juillet 1853. Toute ma semaine passée a été mauvaise. Je me suis tordu dans un ennui et un dégoût de moi corsé. Cela m'arrive régulièrement quand j'ai fini quelque chose et qu'il faut continuer. La vulgarité de mon sujet me donne parfois des nausées. Et la difficulté de bien écrire tant de choses si communes, encore en perspective, m'épouvante. Je suis maintenant achoppé à une scène des plus simples, une saignée et un évanouissement. Cela est fort difficile. Et ce qu'il y a de désolant, c'est de penser que, même réussi dans la perfection, cela ne peut être que passable et ne sera jamais beau à cause du fond même. Je fais un ouvrage de clown. Mais qu'est-ce qu'un tour de force prouve, après tout? N'importe, aide-toi, le ciel t'aidera. Pourtant, la charrette, quelquefois, est bien lourde à désembourber.